Vous êtes sur RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h42, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL, Alba Ventura. On vous retrouve avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.
Bonjour Antonio Guterres.
Bonjour.
Alors vous êtes en France parce que vous participez au Forum de Paris pour la paix, le maintien de la paix dans le monde, la sécurité dans le monde. Ce sont évidemment les priorités des Nations Unies. Antonio Guterres, je vous pose directement la question. En Syrie, les Kurdes, qui sont nos alliés contre Daesh, font face aux forces turques dans le nord de la Syrie. Toutes les organisations internationales, donc la vôtre, l'ONU, ont condamné cette opération militaire. Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ça ?
Bon, naturellement qu'aujourd'hui, la situation que nous vivons en Syrie est une situation où un certain nombre d'acteurs ont la main libre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vision multilatérale de la solution de la crise syrienne. Il y a un certain nombre d'acteurs qui font ce qu'ils veulent. Dans un contexte, c'est un contexte qui n'est pas prévu par personne, ni planifié par personne. Mais nous avons les Syriens, nous avons naturellement l'appui qui a été donné et par les Russes, et par les Américains, et par les Turcs, et par les Iraniens, et par... Alors, le drame que nous avons aujourd'hui en Syrie, comme en Libye, comme partout, c'est que des conflits qui étaient des conflits locaux rapidement se transforment en conflits régionaux. Il y a un grand nombre d'acteurs qui s'engagent et s'engagent quelquefois d'une façon qui échappe complètement au contrôle des institutions internationales. Pour vous donner un autre exemple, la Libye. Il y a un embargo pour les armes vers la Libye et aujourd'hui, tout le monde sait, cet embargo est violé par un certain nombre de pays qui proclament eux-mêmes qu'ils le font. Alors, il nous faut rétablir une logique de gestion multilatérale des crises. Et la question centrale pour le réussir, c'est un Conseil de sécurité qui soit fonctionnel. Malheureusement, nous vivons dans un monde où, parce que la relation entre les grandes puissances est très dysfonctionnelle, le Conseil de sécurité lui-même est dysfonctionnel. Et à cause de ça, ce n'est pas possible d'établir une ordre multilatérale dans la plupart des conflits, y compris la Syrie.
Mais c'est ce qu'on voit, hein, sans la Russie ou sans la Chine, parfois on ne peut rien. On a l'impression que ce sont eux les maîtres du jeu. Même l'Europe et la France, je dirais, ce vieux pays, ce vieux continent, ne servent plus à rien.
Non, mais tous les pays servent à quelque chose. Le drame, c'est que chacun le fait pour soi.
C'est ça, chacun pour soi.
Et nous avons besoin de rétablir une ordre international basé sur la loi et avec des organisations multilatérales fortes. Il y a des gens qui pensent que comme nous ne vivons plus dans un monde ni bilatéral, guerre froide, ni unilatéral, la période de la grande hégémonie américaine des années 90, il y a des gens qui pensent qu'on va vers un monde multipolaire et que ça va résoudre tous les problèmes. Premièrement, ce monde n'est pas encore multipolaire, il est plutôt chaotique. Et deuxièmement, même un monde multipolaire sans organisation de gouvernance multilatérale ne garantit pas la paix. Si nous pensons à l'Europe avant la Première Guerre mondiale, elle était multipolaire, mais sans organisation multilatérale de gouvernance, l'Europe est entrée en guerre.
Monsieur le secrétaire général, je parlais tout à l'heure donc des frappes turques contre les Kurdes en Syrie. On a appris le retour de djihadistes, notamment français. Ce sont les Turcs qui nous renvoient chez nous, en fait, des djihadistes. Est-ce que là aussi, est-ce que nous subissons ce retour-là ?
Non. Je crois que là, il y a une responsabilité commune internationale. C'est-à-dire, il y a des combattants qui sont venus de partout dans le monde. Beaucoup d'entre eux se sont engagés avec des organisations terroristes. Et je crois qu'il y a une responsabilité collective face à ces combattants. C'est-à-dire, on ne peut pas simplement demander à l'Irak ou à la Syrie de résoudre ce problème pour tout le monde. Il faut qu'il y ait une véritable solidarité internationale. J'ai fait le plaidoyer à tous les États de recevoir au moins les femmes et les enfants de ces djihadistes et d'organiser les mécanismes d'intégration dans leurs sociétés respectives. Et face aux criminels eux-mêmes, je crois qu'il faut avoir des règles de coopération internationale. Il y a des idées, par exemple, visant une cour internationale. Il y a d'autres idées en marche. Mais je crois qu'il faut de la solidarité. Si tout le monde commence à jeter ces gens-là les uns contre les autres, on aura inévitablement des terroristes qui vont se mettre en liberté et faire n'importe quoi d'une façon dangereuse pour tout le monde.
Mais sans en tout aucun cas, les enfants...
Il nous faut une coopération internationale pour résoudre ce problème.
Et sur la dimension humanitaire, vous dites les enfants doivent revenir en France.
À mon avis personnel, je crois que chaque pays devra, au moins vis-à-vis les femmes et les enfants, chaque pays devrait accepter sa responsabilité.
Antonio Guterres, autre endroit du monde où il est bien difficile de maintenir la paix, c'est le Sahel. La mission de l'ONU, la MINUSMA, sur place, est parfois bien plus attaquée qu'elle ne protège. La France mène aussi un combat sur place avec l'opération Barkhane. Est-ce que là aussi, il y a une incapacité à résoudre cette crise et à endiguer le terrorisme ?
Bon, parlons franchement. Le dispositif sécuritaire qui existe aujourd'hui au Sahel, qui est l'ensemble de la MINUSMA, qui est une force de maintien de la paix. D'ailleurs, la MINUSMA a l'écrasante majorité des pertes de vie de soldats et de policiers dans les opérations de paix des Nations Unies. Parce qu'il y a une opération de maintien de la paix là où il n'y a plus de paix à maintenir. Et où la MINUSMA, qui fait d'ailleurs un travail très courageux, notamment dans la protection des civils, est devenue un cible dans des circonstances particulièrement difficiles. Et la France, qui a joué un rôle très important avec l'opération Barkhane, et naturellement que la dimension de l'opération n'est pas suffisante face à la dimension du problème. Après, il y a le G5 Sahel. Moi, j'ai toujours été en faveur, dans les situations comme le Sahel, ou comme en Somalie, ou comme dans le lac Tchad, qu'il nous faut avoir des forces d'imposition de la paix et de lutte antiterroriste, des forces africaines, mais avec des mandats clairs, sous chapitre 7 des Nations Unies, et avec un financement garanti. Malheureusement, le Conseil de sécurité ne l'a pas approuvé vers le G5 Sahel. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est un G5 Sahel affaibli, qui n'a pas
ni un mandat
suffisamment clair, ni les ressources nécessaires pour que les cinq pays, qui sont des pays pauvres, qui sont des pays en difficulté, puissent créer une force capable de faire face aux défis terroristes qui maintenant se répandent. C'est pas seulement le Mali, le Burkina est dans une situation extrêmement dangereuse, comme vous le savez, et maintenant le terrorisme se répand et s'approche des pays de la côte. Et quand on parle aux dirigeants du Ghana, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, ils expriment une énorme préoccupation, l'ECOWAS s'est réuni, mais il faut que la communauté internationale fasse un sérieux investissement et sécuritaire et de développement, parce que les deux choses doivent aller ensemble, pour éviter que le Sahel et les régions environnantes deviennent un champ où le terrorisme puisse triompher.
Il y a une question qui vous tient, je le sais, particulièrement à cœur, Antonio Guterres, c'est le climat, la crise climatique. Donald Trump a officialisé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Là aussi, votre ennemi, ce sont les égoïsmes, finalement. Chacun pour soi.
Je crois que il y a une chose fondamentale. Nous avons une feuille de route qui est claire. La communauté scientifique nous a dit ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est de réduire les émissions de 45% jusqu'à 2030, c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2050, et c'est de ne pas laisser la température monter au-dessus de 1,5 degré en fin de siècle.
Ils nous disent aussi pas manger de viande. C'est anecdotique, ça, ou pas ?
Pardon ?
Ils nous disent, les scientifiques, de ne pas manger de viande, d'arrêter.
Ils nous disent beaucoup de choses.
C'est anecdotique ?
Ils nous disent beaucoup de choses. Et moi, là aussi, je mange moins de viande que je mangeais avant. Mais la question centrale, c'est une question de volonté politique. Aujourd'hui, nous n'avons pas ni l'accord de Paris complètement mis en œuvre par les États qui ne respectent pas entièrement les engagements faits à Paris. Et en même temps, ces engagements ne sont pas suffisants. Parce que ces engagements pourraient conduire à la fin du siècle à une croissance des températures de 3 degrés, 3 degrés et demi. Alors, il faut absolument que les États acceptent d'ici fin 2020, quand il y aura la conférence des États qui font partie de la communauté internationale en matière de climat, il nous faut absolument que les États assument des compromis, des engagements qui soient en ligne avec ce que la communauté scientifique nous demande. Et ça a des conséquences très, très claires. Par exemple, mettre un prix sur le carbone.
Oui.
Transférer des impôts, qui sont aujourd'hui des impôts sur les salaires, pour des impôts sur le carbone.
Il faut une taxe carbone.
Il faut une taxe carbone.
Vous savez ce que ça a donné en France, la taxe carbone ?
Ou d'autres mécanismes similaires.
Ça a donné des mouvements sociaux en France,
non,
la taxe
non,
carbone.
Non, mais non, attention, ce que je dis, c'est qu'il faut que des impôts qui aujourd'hui sont des impôts collectés sur les salaires ou sur d'autres revenus soient transférés vers le carbone. Alors, je suis sûr que si on fait ça, les classes moyennes seront très contentes. Parce que ça va faciliter l'emploi et ça va augmenter le revenu des gens. Naturellement qu'ils paieront aussi pour, dans les impôts carbone. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas un autre impôt. Ce qu'il faut, c'est remplacer une taxation sur les revenus, notamment les salaires, par une taxation sur le carbone, qui est le grand danger. Et il faut arrêter les subsides aux combustibles fossiles. Et n'oublions pas que ces subsides sont payés par l'argent des contributeurs. Alors, si l'argent des contributeurs n'est plus nécessaire pour payer les subsides aux combustibles fossiles, ça permet de réduire les impôts aux gens. Il faut faire les choses d'une façon intelligente. Il faut, en même temps, taxer la pollution et appuyer les personnes et les familles.
Antonio Guterres, je sais que vous avez beaucoup soutenu la jeune Suédoise Greta Thunberg dans son combat pour l'environnement. Elle a été critiquée comme étant une donneuse de leçons. Certains ont jugé qu'elle était un peu trop too much ou trop radicale, comme l'a dit le président français Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Je crois que face à l'émergence climatique, face à la crise climatique, même un certain radicalisme ici et là n'est pas négatif.
J'ai une toute dernière question, Antonio Guterres. Sur l'Iran et la prolifération nucléaire, est-ce que vous êtes très inquiet ce matin ?
Oui, pas seulement sur l'Iran et la prolifération nucléaire, sur le fait qu'on voit un recul en matière de contrôle des armes nucléaires. Il y a l'accord entre les Russes et les Américains sur les missiles de moyenne portée qui n'est plus en vigueur. Et il faut absolument faire renouveler le New Start sur les armes nucléaires stratégiques. Et on voit de la lenteur dans tout ça. Et on voit les risques de prolifération qui sont des risques extrêmement dangereux. Et il ne faut pas oublier qu'il y avait des mécanismes de contrôle dans le passé. Dans la guerre froide, il y avait une préoccupation. Il y avait des mécanismes de contrôle. Aujourd'hui, il y a une certaine lassitude qui, à mon avis, peut devenir dangereuse.
Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général de l'ONU.
C'était un plaisir.
La France doit accueillir les femmes et les enfants de djihadistes, vient de nous dire le secrétaire général des Nations Unies, qui souhaite par ailleurs promouvoir à l'échelle de la planète une forme de taxe carbone, avec un transfert des taxes sur le travail, sur celle de l'écologie. Merci beaucoup à tous les deux. L'entretien est à retrouver sur le site RT.